Bonjour. On sait qu'en Israël aujourd'hui fleurit une très abondante littérature en hébreu, mais il ne faut pas oublier également une importante création en arabe, en anglais, en russe et en français. Et c'est justement pour évoquer cette création littéraire dans notre langue de Molière que j'aimerais aujourd'hui consacrer deux émissions à Raphaël Jérusalmi, ou Raphaël Yerushalmi, si on le prononce à l'israélienne, qui est donc cet immense écrivain, et j'assume cette épithète, immense écrivain israélien de langue française, qui s'est révélé écrivain, on va dire, sur le tard, et qui publie depuis plusieurs années, très régulièrement, des romans, des récits, aux éditions Actes Sud, ainsi que chez l'éditeur de poésie Bruno Doucet. Alors, Raphaël Jérusalmi est né à Paris. Il est normalien, c'est-à-dire qu'il a fait Normal Sup, diplômé de la Sorbonne. Il est ensuite parti en Israël, où il a fait carrière au sein des services de renseignement militaires israéliens, avant de se lancer dans des actions humanitaires, de vendre des livres anciens pour finalement atterrir en écriture. En 2012, le premier roman, Sauver Mozart, paraît chez Actes Sud. Raphaël Jérusalmi rend hommage à la musique comme arme de résistance. Les romans suivants évoquent tous des périodes historiques différentes, avec même une incursion dans l'avenir, avec la dystopie, c'est-à-dire un roman imaginaire dans l'avenir, intitulé « Évacuation », un roman à la fois plein de lumière et de ténèbres, qui se situe dans un Israël, ou plutôt une Tel Aviv du futur. Mais d'autres romans, avec comme personnages principaux François Villon, Torquemada, l'affreux inquisiteur, Guillaume Apollinaire, Denis Diderot, qui font partie donc des personnages que l'on retrouve chez Jérusalmi. Une autre constante dans les ouvrages de Jérusalmi est le rôle essentiel joué par l'écrit sous toutes ses formes, que ce soit sous forme de parchemin dans la confrérie des chasseurs de livres, de peinture dans Évacuation et maintenant dans In Absentia, qui est paru il y a quelques mois, de poésie dessinée, les calligrammes d'Apollinaire dans Les obus jouettes à pigeon vol, de partitions musicales dans Sauver Mozart, dans L'art de la gravure, dans La rose de Saragosse. Il y a un lien très particulier chez Jérusalmi avec l'impression, au sens premier du terme, qui semble être pour lui la forme primordiale du langage écrit. Et comme il l'a déjà confié, il a en fait des ascendants dans sa famille qui sont tous liés à la chose imprimée, que ce soit le libraire, l'imprimeur, le relieur et bien sûr l'écrivain. Autre constante, dans les œuvres de Raphaël Jérusalmi, on a une sensation très forte que l'écrivain se délecte avec la langue française. Il prend beaucoup de plaisir à travailler la langue, à l'accorder, comme un instrument de musique, à l'époque et aux personnages qui la parlent. Ce qui fait que, ça c'est mon impression de lectrice, on a l'impression que chacune des œuvres est écrite par un écrivain différent, tout en étant en même temps relié par ce fil rouge déjà évoqué, qui est la chose imprimée, le fait de l'impression, qu'elle soit note de musique, peinture ou lettre. Alors j'aimerais évoquer, pour vous donner envie de tout lire, dans cette première émission, les œuvres parues donc depuis 2012, et puis l'émission prochaine, la deuxième émission sur Raphaël Jérusalmi, sera consacrée exclusivement au roman In Absentia, en absence, mais j'en parlerai plus longuement. Je reviens à Sauver Mozart, où Jérusalmi mêle avec beaucoup de brio la musique, Hitler, la tuberculose et la mort. Un étui à violon peut cacher une mitraillette, On l'a vu dans beaucoup de films de gangsters américains. Je vous renvoie à Al Capone de Howard Hawks. Et ici, c'est un étui à mitraillette qui renferme un violon. Métaphore, bien sûr, façon de parler. L'arme, par destination, sera maniée par le grand violoniste Schneiderhan sous la direction de Karl Böhm durant la soirée d'ouverture du Festspiel de Salzbourg le 17 juillet 1940. Et à nouveau, ou plutôt déjà, avec ce premier opus, Raphaël Jérusalmi s'est admirablement entrelacé la grande histoire et son roman de fiction personnel. Le commanditaire de l'attentat sera dans la salle. Son nom, Otto G. Steiner, dont le journal intime, qui est ce roman, un roman sous forme de journal intime, retrace les préparatifs fébriles. Fébrile, c'est le cas de dire, puisque Steiner est atteint d'une maladie encore incurable à l'époque, la tuberculose, et en même temps des préparatifs tout à fait malicieux, dont je ne vais pas vous révéler la teneur, bien sûr. Otto Steiner est juif ? À peine. Plutôt, écrit Jérusalmi, un pot-pourri, mi-autrichien, mi-silésien, pas encore mort et pourtant déjà banni du monde des vivants. Fermez les guillemets. Ce mélomane préfère se définir, citation, « autrichien de condition physique » et fin de se croire différent des malheureux dont il partage pourtant le destin dans un sanatorium à la dérive, tel un galet dans un torrent, écrit-il, mais un galet qui roule encore. Un par un, il a écoulé ses livres et ses partitions contre du cervelas, il faut bien manger, sans trop prêter l'oreille aux échos de la guerre, jusqu'au jour où plus rien ne le protège de la crasse, des râles, des pommes de terre bouillies, du sana. Il lui faut à ce moment-là contempler toute la bassesse, toute la laideur de l'époque, le mépris de l'art. N'oublions pas ce qu'ont fait les nazis avec l'art dit dégénéré, donc ce mépris de l'art érigé en doctrine, et puis découvrir tout à fait par hasard qu'il ignore la peur. Dès lors, notre héros, Otto Steiner, hésite. Lui faut-il assassiner Hitler ou, je cite, assister une dernière fois au Festspiel en costume cravate, fin de citation. Incapable qu'il ait de choisir, il va alors tenter de joindre l'utile à l'agréable. Ce premier roman repose sur la mise en scène d'une idée unique et très simple. Tout d'abord, on a un assemblage de paragraphes essoufflés comme le héros tuberculeux, qui a de plus en plus de mal à respirer. Donc des paragraphes que rien ne semble lier, des paragraphes aussi maigres que les pensionnaires du Sana, qui leur sert de cadre, et qui ne présagent évidemment rien de très solide. Le narrateur en convient lui-même. « Je ne me retrouve absolument pas dans ces phrases trop courtes, saccadées, que j'ai pourtant écrite de ma propre main. » Fin de citation. Et de fait, le château de cartes va s'écrouler au milieu du livre. Mais on va soupçonner là une maladresse nécessaire, le récit, plutôt drôlatique, d'un projet terroriste contre Hitler et Mussolini au col du Brenner, digne du dictateur de Chaplin. La leçon en est simple, à chacun selon ses moyens. Le modeste attentat ourdi par Steiner sera donc à l'image de son journal, subtil, distancié, mais d'une ironie radicale et d'un humour glacial. Pas de grands mots, pas de grandes phrases, mais une affirmation tranquille qu'un acte de résistance est toujours possible, même chez un homme à bout de force, au seuil de la mort, acculé dans son dernier retranchement qu'il défendra jusqu'à la mort, à savoir la musique de Mozart. Tout s'éloigne petit à petit de Otto Steiner. Sans retour, dit-il. Son fils, le bolchevique révolté, est en Palestine ou ailleurs. Sa femme est morte. Sa sœur volatilisé. Reste son gramophone usé, quelques parties d'échecs, avec d'autres malades tuberculeux comme lui, les rares visites de son rédacteur en chef et de sa locataire désargentée. Donc de plus en plus juif, de plus en plus malade, il va fomenter cet acte de résistance à sa mesure, élégant et implacable. Second roman, La confrérie des chasseurs de livres. Je rappelle que ces romans sont édités chez Actes Sud. Ou bien Les tribulations du poète français François Villon, mandaté par le roi de France auprès d'un imprimeur allemand. On a affaire ici à un voyage épique qui commence, pour le plus grand plaisir des amateurs d'aventures érudites, je précise. Le premier poète des temps modernes, il s'agit bien sûr de François Villon. Génie solitaire, buveur de vin, ami des filles, l'auteur de La Ballade des pendus et de La Ballade des temps jadis, mise en musique pour ce dernier poème par Georges Brassens. Souviens-toi ou dans quel pays naît Flora la belle romaine, Alcibiade et Thaïs, qui fut sa cousine germaine, donc François Villon. Et comme le rappelle le grand critique Kléber Edens dans son histoire de la littérature française chez Grasset, je cite, « le seul cambrioleur professionnel qui ait légué une grande œuvre à la littérature française ». En 1462, à l'âge de 31 ans, après avoir réussi, et je recite Kléber Edens, de fructueux coups de main des escalades de mauvais aloi, fin de citation, François Villon est arrêté, torturé, condamné à être pendu et étranglé. Un an plus tard, le Parlement casse le jugement et le bannit de Paris. Le poète, toujours dans la bouche de Kléber, sous la plume plutôt de Kléber Edens, s'écarte du monde à pas de velours, nul ne sait ce qu'il advint de lui par la suite, rappelle en préambule Raphaël Jérusalmi, qui en fait le héros de la confrérie des chasseurs de livres. Et il imagine effectivement ce qui va devenir de Villon, banni de Paris. Un roman plein d'énergie, plein de malice, plein d'insolence et d'érudition, et qui s'ouvre sur François, vêtu de haillons, qui croupit au fond de son cachot. Cachot où il reçoit la visite de l'évêque de Paris, Guillaume Chartier, dont personnage tout à fait historique, un prélat envoyé par le roi Louis XI en personne. Louis XI a un pacte à proposer aux rebelles, qui a horreur des pédants et des précieux. Une solution idéale pour lui permettre d'échapper à la potence. Chartier a besoin des services d'un gredin doublé d'un fin lettré. Donc exactement ce qu'il lui faut. Et il explique à Villon que le Saint-Siège, donc le pape, veut interdire la publication de la République de Platon, dont il lui montre un exemple sorti des presses d'un certain Johann Faust, imprimeur à Mayence, exemplaire qui se vend sous le manteau. La cour de France, donc Louis XI, se demande pourquoi Faust s'obstine à publier ce genre d'ouvrage au risque de subir les foudres de l'Inquisition. Donc, mandaté par Chartier, et Chartier lui donne le titre de émissaire du roi de France, François Villon doit convaincre le vieil orfèvre et imprimeur allemand de mettre ses propres presses au service de la France pour mieux combattre la censure et faciliter la circulation des idées progressistes réprouvées par Rome. Et surtout, faire en sorte que la France se détache de la tutelle de Rome. C'est ainsi que, habillé de neuf, il va partir, mais pas tout seul. À ce Don Quichotte des temps modernes, il faut un Sancho Panza, son ami Colin de Cailleux, un solide brigand de la bande des Coquillards, bande célèbrissime bande à laquelle appartenait Villon, et avec lequel il a monté donc des embuscades et s'est caché dans la forêt quand la maréchaussée était à leur trousse. Le poète et son camarade, ronchonneur qui jouit de sa constante mauvaise humeur, écrit Jérusalmi, se rendent d'abord à Gênes, une ville toute de bruit et de fièvre, où ils doivent recevoir de nouvelles instructions avant de faire route vers la Terre Sainte, dont les maîtres actuels sont les Mamelouks, et je recite Jérusalmi, anciens mercenaires et esclaves venus d'Égypte, tout comme les Hébreux. Un ouvrage qui se distingue des romans de fiction de Jérusalemi et qui s'intitule « Les obus jouaient à pigeon vol », qui est un fragment d'un vers de Guillaume Apollinaire. Cet ouvrage est édité cette fois aux éditions Bruno Doucet, qui est un éditeur de poésie, bien que l'ouvrage soit un ouvrage en prose, il est paru en 2016. Il s'agit d'une magnifique mise en page des dernières 24 heures d'Apollinaire au front, avant l'impact de l'éclat d'obus qui le touche à la tête. Apollinaire s'est engagé pour voir, il s'est engagé volontaire, pour voir l'autre côté, pour être sur le fil du rasoir, à la fois dans sa peau de poète, et voir comment rejaillit sur la poésie la tension absurde de la guerre. Voir s'il est possible de la rendre utile, dans le sens où l'on dit à quelque chose malheur est bon. Il s'agit pour lui, pour le poète, de tout accepter, de ne rien rejeter, de ne pas s'exposer davantage, mais pas moins que ces hommes, les hommes qui sont avec lui dans la tranchée, qui l'ont surnommé Cointreau Whisky, allusion à son véritable patronyme, qui n'était pas Apollinaire, comme vous le savez, mais Kostrovitsky, donc Kostrovitsky, Cointreau Whisky, plus facile à retenir, plus camarade. Apollinaire est celui qui les écoute, ces hommes, ces petites gens, qui les entend en tant qu'homme, pas en tant que supérieur, même si lui reçoit des lettres, des revues d'art sur le front, au fond de sa tranchée, il reste proche d'eux, ils enrichissent sa pensée, sa langue, entremêlant ses mots à lui, les leurs, et la façon de les dire, de les accorder. Apollinaire n'est pas entre deux, mais il est de plein pied dans les deux mondes. Il est à Paris, il est sur le front, il est à la guerre, et il est en poésie. Il cueille, en passant, les éclats de vers et les éclats d'obus, sans rendre la guerre inoffensive, mais en la prêtant, comme pour mieux la désarmer. Il n'y a pas de mots pour dire la guerre. Le temps et la phrase qui s'étirent, rectiligne entre les tirs d'obus, ne rendent compte de rien. Il faut les démembrer, comme le sont souvent les hommes morts, les éclater, comme les obus éclatent, comme pour mieux entendre la résonance, le silence, le blanc, le vide, entre les mots. C'est le meilleur moment, le plus beau, ces fautes de pas, ces variations maladroites, ces demi-pointes, quand le poème balbutie encore. Toute cette dérive, la phrase flotte, elle ondule, elle frétille, elle se dandine, se regarde dans la glace en faisant la coquette. Si l'on tarde, les mots se bousculent, s'énervent, deviennent indociles. Raphaël Jérusalemi, dans « Les obus jouaient à pigeon vol ». Donc, Jérusalemi s'inspire des mots du poète, réinvente les dernières 24 heures d'Apollinaire, avant sa blessure. Cet engagement militaire et poétique, sérieux et léger, surréaliste et total dans cette guerre qui va marquer la fin d'un monde. Et puis, et c'est surtout ce qu'on ressent dans ce roman biographique, cet amour fou de la vie au moment où le monde se désenchante dans une guerre stupide. La découverte près de Munich d'un numéro de la revue Mercure de France, annoté de la main de Guillaume Apollinaire, va servir de prétexte à cette relecture. Le poète se bat, les armes à la main. Il participe à l'improbable accouchement d'un monde résolument différent, invente ces calligrammes qui vont déstructurer le vers ancien, témoigne de la poésie là où sont les hommes, et en retour témoigne auprès des artistes de son temps, avec lesquels il collabore, de cette guerre à laquelle certains ont échappé, comme Jean Cocteau ou Pablo Picasso. J'aimerais, pour clore cette première émission, évoquer un autre roman, cette dystopie, intitulée « Évacuation ». Évacuation, un ouvrage qui pourrait être une ode à l'optimisme et dont Raphaël Jérusalemi dit lui-même lorsqu'il s'agit d'Israël, quoi que vous fassiez ou disiez est immédiatement entaché d'une couleur politique, pose un dilemme éthique, prêt à débat. C'est une regrettable habitude. Le Tel Avivien n'est pas exempt de cette manie, il a juste décidé qu'elle ne lui gâcherait pas la vie pour autant. C'est sans doute, continue Jérusalemi, la seule façon de vie à tirer ou non de ce conte urbain et de l'attitude faussement désinvolte qu'il dépeint. Plus qu'à ses habitants, lesquels sont de tous bords et de toutes ethnies, c'est à la ville elle-même que l'ode « Évacuation » est dédiée, un peu comme Piaf a chanté « Panam Panam ». Et le fait que je ne prenne pas position sur le conflit, la société israélienne d'aujourd'hui, l'école d'Hillel ou de Shammai, dit-il de façon humoristique, exprime en fait un sentiment de modestie. Donc, que se passe-t-il dans cette fiction, ce conte poétique sur fond de guerre ? Alors que l'affrontement menace encore une fois de tourner à la guerre ouverte, les autorités d'Israël décident de vider Tel Aviv de sa population, quartier par quartier, avant que les missiles ne s'abattent. Alors qu'ils sont dans le bus qui doit les évacuer, les trois acteurs du récit, soudain, en descendent, trompant la vigilance des militaires. À leur tête, Saba, le grand-père, le papy, le vieil homme, réchappé de la Shoah, qui n'a jamais abdiqué son esprit de résistance. Avec lui, le narrateur, son petit-fils, Naot, étudiant en cinéma, et la jeune artiste, Yaël, sa petite amie. Artiste-peintre. L'aventure clandestine pour eux commence entre opération survie et appropriation d'une ville qu'ils redécouvrent, relevant à d'infimes indices que d'autres ont pareillement choisi de rester. Pour Saba, un regain de jeunesse, pour Naot et Yaël, une source d'inspiration, des fulgurances sur la toile pour elle, le premier script et les images initiales d'un film qui s'intitulera « Évacuation » pour lui. De temps en temps, des explosions, lointaines ou proches, et eux trois en train de célébrer la vie, d'examiner leur désir de paix. Le récit de ces journées, c'est Naot qui le fait à sa mère dans la voiture qu'il conduit sur la centaine de kilomètres nord-sud, séparant le kibbutz Ein Harod, où vivent ses parents, de Tel Aviv, où la paradoxale liberté a pris fin d'atroces façons. Et tandis que les images des panneaux routiers vont s'afficher en tête de chaque chapitre et entre les paragraphes, telles les stations d'un chemin de peine, Naot raconte la conjonction de leurs trois existences contre la peur et la tentation de la fuite. Il s'agit vraiment d'un city movie, excusez-moi pour cet anglicisme, hein, vraiment d'un film urbain, un film sur la ville, donc sur cette Tel Aviv, et puis aussi sur la guerre. Et c'est pour la raison pour laquelle j'aimerais clore cette émission sur un poème de Yehuda Amichai intitulé Shir Leil Shabbat, chant du vendredi soir où Amichai chante la paix le jour, ou plutôt le vendredi soir, où la guerre a décidé d'aller y voir ailleurs. Viendras-tu ce soir ? Viendras-tu ? Dans la cour, le linge a séché. Une guerre jamais rassasiée ailleurs est allée guerroyer. Et les routes s'en reviennent seules, comme un cheval sans cavalier. La nuit, la maison clôt son gîte sur le bien, le mal qu'elle abrite. La musique est de Moshe Vilensky, poème Yehuda Amichai, au piano Laurent Greenspan, à la voix, moi-même.
עכשיו